Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui mes collègues et grandes amies Lina Bolzoni et Benedetta Papassoli. L'une a été l'élève de Paola Barocchi, que vous voyez là, et que j'ai eu moi-même le privilège de connaître dans les couloirs silencieux de l'école normale en 68, quand tout était occupé, les professeurs restaient tranquillement à leur maison, mais la seule qui venait pour recevoir les étudiants était en effet Paola Barocchi, que vous voyez là dans un portrait admirable. Elle habitait le Lungarno derrière ses épaules. Très belle photo et vraiment une dame extraordinaire. Lina Bolzoni est bien placée pour la présenter. Et Lina Bolzoni elle-même a enseigné à l'école normale de Pise et ses intérêts portent sur la Renaissance. Notamment, elle a commencé en publiant, et même plusieurs fois avec des textes nouveaux, l'idée du théâtre de Giulio Camillo, avec l'idée de l'éloquence. Et puis, elle a consacré ses études à deux éléments fondamentaux. Le développement de l'art de la mémoire au XVIe siècle, dans tous les pays, la stanza della memoria, et encore la mémoire comme lieu de, comme dispositif rhétorique pour la prédication, la rete delle immagini, et donc. Dans les textes de Bernardino da Siena, et puis le portrait à la Renaissance, poésie et ritratto nel Rinascimento, et aussi les traités sur l'amour à la Renaissance, avec un très beau titre, un peu à la Werner Herzog, hein, Le cœur de cristal. Le cœur de cristal, donc poésie et portrait à la Renaissance. Et bien sûr, elle a assuré plusieurs fois la présence et la continuité des textes dans les images, les textes illustrés, la réception des textes dans la peinture, et notamment l'Orlando Furioso nello specchio delle immagini. Et plus récemment, un livre vraiment fondamental, que nous retrouverons dans une semaine dans ce que Alberto Manguel va nous proposer, une merveilleuse solitude, l'art de lire dans l'Europe moderne, qui vient de paraître chez Einaudi, et vraiment un essai de grande ouverture sur le contexte européen. Je suis ravi de lui donner la parole et de parcourir ensemble ce moment merveilleux où les étudiants, les professeurs, la recherche étaient vraiment le cœur d'une vie quotidienne.
Merci beaucoup, Carlo, pour ta généreuse présentation et pour m'avoir invité à parler de Paola Barocchi. Et j'aimerais commencer par quelques souvenirs personnels. En 1968, comme Carlo disait, Paola Barocchi est arrivée à Pise, à l'école normale, comme professeure d'histoire de la critique d'art. Je ne peux pas dire que notre accueil, c'est-à-dire nous qui étions étudiants à l'époque, a été chaleureux. On a fait grève parce que nous voulions une chaire d'économie politique ou d'une discipline qui aurait été utile à la révolution prolétaire internationale. Nous n'avions pas pu voir ce qu'il y avait de nouveau et de révolutionnaire dans la création de cette chaire. C'était une nouvelle discipline, et Paola a dû créer aussi un nouveau secteur de la bibliothèque, et qui plus est, c'était une femme qui l'enseignait. Longtemps, le problème de la présence féminine parmi les professeurs titulaires d'une chaire est resté ouvert et de manière pesante. Je me demande aussi si cette composante, le fait d'être une femme dans un contexte nettement masculin, n'a pas contribué à créer ces moments difficiles que l'école ne lui a pas épargnés. Après cet accueil, pour ainsi dire, politique, le moment est venu de ma rencontre personnelle avec elle. Je ne suivais pas son séminaire. Au début, elle avait très peu d'étudiants parce que les normaliens sont essentiellement conservateurs et sa discipline était nouvelle. J'avais commencé à étudier Tommaso Campanella. Il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, les textes les plus fascinants, c'est-à-dire les poésies, les lettres, la Cité du Soleil. Puis, une véritable épreuve d'initiation. Nicola Badaloni, qui enseignait l'histoire de la philosophie, m'avait dit que je devais commencer par la métaphysique. Mais je n'arrivais pas à trouver le livre à la bibliothèque. Puis, avec l'aide de Panzarino, un bibliothécaire mythique, très aimé des normaliens, je suis arrivée à le trouver. C'était un ouvrage énorme, comme ça. La reproduction anastatique de la seule édition, celle de 1623, en latin et hors format. C'était bien pour cette raison que je ne la trouvais pas sur les rayons de la bibliothèque. La dernière étape de mon parcours a été constituée par les textes inédits, notamment les commentaria de Campanella aux poésies d'Urban VIII, vu que je travaillais sur sa poétique. Ces derniers étaient conservés à la Bibliothèque Apostolique Vaticana. J'avais fait arriver les microfilms avec la reproduction du manuscrit. Et les microfilms, c'est un instrument désormais préhistorique pour nos étudiants. Et j'avais besoin d'un lecteur de microfilms pour le lire. Or, un des rares lecteurs de microfilms que l'école possédait se trouvait justement dans le bureau de Paola Barocchi. C'est pourquoi je m'installais là et je fermais soigneusement les volets intérieurs afin de mieux lire le microfilm. Quand elle arrivait, elle trouvait non seulement cette casse-pied installée là, mais aussi son bureau dans l'obscurité. Et la première chose qu'elle faisait, très justement, c'était d'ouvrir les volets. La gêne passait un peu chaque fois, vu que je persévérais de manière obstinée, elle a commencé à me demander ce que j'étudiais et c'est ainsi qu'a commencé un rapport, un dialogue qui a continué et qui s'est enrichi au fil des années et des décennies. Un lien de grande affection et de reconnaissance qui a joué un rôle fondamental dans ma formation puis dans mes recherches. Si, après avoir commencé à m'occuper des rapports entre littérature et philosophie, j'ai été fascinée par les images et par les liens complexes et fascinants que la littérature et l'art peuvent entretenir, c'est en premier lieu grâce à elle, à sa curiosité, à sa patience, à son ouverture d'esprit envers moi. Au cours des années qui ont suivi, la présence à l'école non seulement de Paola Barocchi, mais aussi d'Enrico Castelnuovo, de Salvatore Settis, a créé un climat unique et inoubliable d'expérimentation et de collaboration. Je voudrais simplement rappeler le séminaire sur le Campo Santo de Pisa qui aboutit au livre publié par Einaudi. Les fresques du Campo Santo étaient analysées avec les textes des prédicateurs, le réemploi de l'Antiquité, l'histoire médiévale de Pisa, les différentes manières dont ils avaient été lus et interprétés. Depuis Vasari jusqu'à la fascination exercée sur les voyageurs étrangers. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'art de la mémoire, mes collègues et mes maîtres spécialistes de littérature italienne étaient fortement perplexes. Aussitôt, Paola Barocchi s'est montrée très intéressée. Elle savait de quoi il s'agissait, en effet, elle avait inclus le théâtre de la mémoire de Giulio Camillo dans son recueil de textes pour les éditions Ricciardi. Et au fur et à mesure que mes recherches avançaient, elle m'invitait à en parler à son séminaire. Le séminaire lié aux expositions et aux colloques pour le 5e centenaire de la Galleria degli Uffizi, de la Galerie des Offices, au début des années 80, ont été particulièrement importants. L'histoire du collectionnisme, la construction des premiers musées, et le développement de l'art de la mémoire, sans te laisser, et il me semblait que l'on pouvait trouver un certain parallélisme entre la conception des répertoires de mythographie et des images et la formation des premiers dictionnaires modernes de langue, à commencer par celui de l'Académie de la Crusca. Giovanni Nencioni accueillit cette hypothèse avec une grande générosité dans une communication qu'il intitula « La galerie de la langue ». L'étroite collaboration personnelle et scientifique entre Paola Barocchi et Giovanni Nencioni a profondément marqué les riches expériences et expérimentations qui ont eu lieu à cette époque-là à l'École normale. Parce que l'intérêt de Paola Barocchi pour les documents, pour les textes liés à l'histoire de l'art, pour le lexique technique, trouvait un interlocuteur idéal chez un historien de la langue raffiné et curieux comme l'était Nencioni. Et cela a signifié aussi une importante collaboration entre les institutions, c'est-à-dire entre l'École normale et l'Académie de la Crusca. Je voudrais rappeler, toujours à propos de l'art de la mémoire, que Paola Barocchi mit tout de suite à ma disposition les fonds nécessaires pour mes recherches. Ne vous inquiétez pas, me dit-elle, tout ce dont vous avez besoin, non si preoccupi, tutto quello che le può servire. Même si je ne faisais pas partie de l'École normale, parce que j'enseignais à la faculté des lettres de l'université. C'est ainsi que j'ai pu passer un séjour splendide au Warburg Institute, faire arriver les textes qui m'étaient utiles. Par la suite, toujours avec son soutien, nous avons constitué auprès de la bibliothèque de l'École normale une collection de microfilms de textes sur l'art de la mémoire, des microfilms qui étaient dispersés dans les bibliothèques européennes et américaines. C'est ainsi que nous avons constitué une collection unique, raison pour laquelle différents chercheurs italiens et étrangers sont venus à Pise pour la consulter. Il y a un autre moment important de ma rencontre avec Paola. Lorsqu'elle a décidé de donner à la bibliothèque de l'École normale les caisses qui contenaient les microfilms, des livres et des manuscrits qu'elle avait fait venir des bibliothèques du monde entier pour les scritti d'arte del Cinquecento, pour les traités qu'elle aurait publiés, pour la collection Ricciardi. Il s'agissait d'un moment important, car il correspondait à une double direction méthodologique. D'une part, la collection s'ouvrait à une conception de la littérature bien plus large et inclusive que la conception traditionnelle. De l'autre, pour Paola Barocchi, c'était la réaffirmation d'une manière de travailler qui avait déjà conduit à la publication des précieux traités d'art del Cinquecento, fra maniérisme et contre-riforme, publié dans la collection Scrittori italiani des éditions La Terza. Cette manière de travailler sous-entendait une forte sensibilité pour la dimension littéraire de la critique d'art, l'attention au lexique, la démonstration, grâce à un réseau très riche et savant de notes, de l'existence d'une tradition précise où la recherche des sources était importante, mais où, en même temps, le concept même de source s'enrichissait et se transformait en celui justement de constante, de variante, de code en évolution. Après l'inondation de 1966, l'accès à la Bibliothèque nationale de Florence demeura longtemps problématique, souvent impossible. Cela avait renforcé pour Paola l'exigence d'avoir à disposition un corpus de textes sur lequel travailler. Justement, les microfilms qui remplissaient les caisses données à la bibliothèque de l'École normale et qui causaient bien de soucis aux bibliothécaires qui devaient les cataloguer. Alors, ils nous demandèrent de l'aide. Ce fut le début d'une véritable aventure. Dans une pièce minuscule cachée dans les méandres de la bibliothèque, ce qu'on appelle la tour d'Ugolino, avec Lucia Tongiorgi et parfois avec quelques étudiants pleins de bonne volonté, nous nous sommes mis à cataloguer les microfilms. On aurait dit une chasse au trésor. Au fur et à mesure, les textes les plus divers sortaient des boîtes de carton. Non seulement des traités d'art, mais aussi des textes d'emblèmes et de devises, des inventions de thèmes iconographiques, des descriptions d'apparats, de représentations théâtrales, de correspondances, de catalogues de collections, de récits de voyages, etc. C'était un véritable thésaurus qui montrait la diversité des intérêts et l'ampleur des recherches d'où étaient nés les scritti d'art del Cinquecento, les textes de critique d'art du XVIe siècle. Paolo Barocchi a beaucoup donné à l'École normale de Pisa. Son style et ses recherches étaient extraordinaires. Je pense qu'il serait utile de reconstruire son parcours, même si cela est difficile pour plusieurs raisons. Parce qu'elle aimait faire plutôt qu'apparaître. Elle pouvait être à la fois inflexible et extrêmement ouverte, prête à soutenir les idées et les projets qui lui semblaient intéressants. Elle avait un sens très fort des institutions et un goût inné pour les choses concrètes et une capacité extraordinaire pour réaliser les grands projets. Je pense à ce qu'elle a fait en tant que professeure et directrice adjointe de l'école pour les éditions, la bibliothèque, les cours d'orientation pour les étudiants. Je pense à sa capacité très moderne et anticipatrice de saisir l'importance de l'informatique pour l'étude de l'histoire de l'art et pour les biens culturels. Souvent, il m'est arrivé de penser que l'on perçoit bien le lien qui était le sien entre, d'une part, sa capacité de voir grand, de réaliser des structures innovatrices, et d'autre part, une dimension, pour ainsi dire, artisanale. Je crois en effet que son intérêt pour l'informatique est né justement de son expérience personnelle d'éditrice de textes, du temps infini dépensé dans la compilation minutieuse d'index, de noms, de lieux, d'œuvres qu'elle considérait comme des outils essentiels pour que le texte édité soit à son tour utile aux autres et en mesure de susciter de nouvelles questions et de nouveaux parcours. Au fond, l'emploi de l'informatique auquel elle a eu recours et qu'elle a développé et qui constitue encore aujourd'hui un point de repère au niveau international, est la traduction moderne de quelques thèmes centraux de ses recherches, c'est-à-dire la reconstruction des collections, du lexique, des archives, du réseau complexe qui unit entre eux les artistes, les commanditaires, le marché, les musées, en somme, les institutions, la culture et la société. C'est en ce sens que l'image de Paola, elle qui a fréquenté jusqu'à la fin ou presque l'archive di Stato, l'archive de l'État de Florence, se prolonge de manière idéale dans les salles remplies d'ordinateurs et de jeunes chercheurs, dans les institutions, dans les centres de recherche qu'elle a créés et qui s'inspirent de son œuvre. Chez Paola Barocchi, il y avait un mélange extraordinaire entre la réserve et l'austérité suggérée par sa personne, par la façon dont elle s'habillait, se coiffait, et son ouverture mentale, et sa liberté d'esprit sans scrupule. Comme quelques-uns de ses étudiants l'ont rappelé, la porte de son bureau était toujours ouverte et la longue table en bois était toujours encombrée de documents, de livres, de photographies, de projets. Deux images emblématiques de sa capacité à la fois de donner des idées et de laisser place aux idées des autres. Ainsi, pendant de nombreuses années à l'École normale, en collaboration avec Lamberto Maffei, elle a organisé des initiatives qui ont permis la participation d'un public nombreux. Je voudrais aussi rappeler les séminaires de Carlo Dionisotti et Paul Haskell, mais aussi la longue collaboration avec Paolo Fossati, qui s'est concrétisée à la fois par un rapport intéressant avec la maison d'édition Einaudi et par quelques moments inoubliables où les artistes contemporains rencontraient les étudiants, parfois avec la médiation de qui les aidait à traduire l'œuvre en mots, comme ce fut le cas de l'irrévérencieuse Carol Rama et de Edoardo Sanguinetti. Maria Corti, et je vous montre sa délicieuse photo de Maria, a été sa collègue à la faculté des lettres du Salento qui venait d'être créée. En 1995, elle a écrit un beau texte qui a été publié dans les annales de l'École normale et j'aimerais en citer quelques passages. Et vous pouvez lire le texte italien et je vais lire la traduction française. Elle commence par évoquer son arrivée en train à Lecce, en provenance de Milano, du nord au sud de l'Italie. Qui est venu à ma rencontre dans cette pièce du secrétariat, un peu sordide, avec un sourire chaleureux et le son aspiré des voyelles et des consonnes florentines, Paola Barocchi. Je la regardais tout étonnée. Elle sortait toute voix du portrait de Pollaiolo qui se trouve au musée Paul di Pozzoli à Milan. La ligne élégante de son long cou, son profil régulier, sa natte haute enroulée au-dessus de la nuque. Dans le secrétariat horrible d'une université de Salento, encore à l'état embryonnaire, une Florentine du XVe siècle me recevait et me souriait. Maria Corti rappelle également un autre épisode qui montre bien la capacité de Paola de surprendre, ainsi que son ingéniosité artisanale. Je cite, « Un jour où il pleuvait à verse, comme il peut pleuvoir dans le sud, un véritable cataclysme, je suis arrivée à la faculté absolument ruisselante et avec mes chaussures trempées. Une fois entrée dans mon bureau, j'ai trouvé, au pied de la table, deux petites chaussures formées de deux feuilles du journal La Gazzetta del Mezzogiorno, pliées comme il faut avec beaucoup de maestria. J'ai tout de suite compris que ce ne pouvait être qu'elle, l'auteur de cette invention ludique. » Fin de la citation. Mais le moment est venu de lui donner la parole. Je voudrais commencer par la préface des studi vasariani publiée chez Einaudi en 1984. Lorsque, dans les années 50, dans le cadre du projet d'une publication des deux éditions de Vie de Vasari, Paola se souvient qu'on lui confia la vie de Michel-Ange, sur laquelle je passais des années de travail intense, elle écrit, de recherches interminables, qui visaient à expliquer l'évolution des différents mythes michelangelesques dans la démonstration ponctuelle sur le corps de chaque œuvre. Cet exercice patient m'amena à lire Vasari d'une nouvelle manière. Et on peut voir les termes, par exemple, recherche interminable, travail intense, démonstration ponctuelle. Ce sont les termes qui entre en plein titre dans la reconstruction idéale du lexique de Paola, un lexique à la fois critique et éthique. Les essais reproduits ici, elle écrit, répondent à la meilleure phase de cette expérience vasarienne qui a duré plus de 30 ans. La difficulté de trouver certains essais, la publication ex novo de deux d'entre eux, ont conduit à la publication de ce recueil, et cet excursus peut être trop personnel. En repensant au passé, il est trop difficile d'évaluer les circonstances et les conséquences, de trouver le fil d'Ariane d'un parcours dont nous ne connaissons pas la sortie. Et dans ces phrases de Paola, nous retrouvons la revendication d'une méthode, mais aussi d'une éthique de recherche, de travail. Une allusion à une autocritique implacable cohabite avec une ouverture confiante vers le futur. Récemment, il m'est arrivé de lire le texte d'une longue interview publiée intitulée « La connaissance des arts figuratifs » que Paola Barocchi donna en 1993 à Maria Perosino et Luisa Passerini pour le compte du Getty Center for the History of Art and the Humanities. J'ai lu avec un grand intérêt, et qui plus est avec une forte émotion, et cela m'a aidé à comprendre bien des aspects dont j'avais eu seulement l'intuition. Je m'arrêterai ici sur quelques-uns. Les thèmes dominants de cette autobiographie intellectuelle sont la liberté et la curiosité. Un thème récurrent est le caractère artisanal de ses recherches, qu'elle relie à sa famille et à ses expériences de jeunesse. Depuis un siècle environ, sa famille était une famille d'orfèvres. Et elle écrit « J'ai passé mon enfance à toucher des objets, à les observer de près, dans les détails, à développer le goût d'une élégance et d'un raffinement sobre. » La passion pour l'histoire de l'art naît très tôt, de manière spontanée. Pendant la guerre, il y a eu, elle écrit, le passage du front à Florence. Mon plus grand souci a été de charger sur une charrette les volumes de Venturi que je ne voulais pas laisser à la maison. Ainsi, ces volumes énormes et très lourds ont été mis sur cette charrette. Charette. Et naturellement, nous l'avons conduit à la Maine, à la campagne, où ils étaient dans un endroit plus sûr. C'est un souvenir vraiment intéressant. Dans cette passion pour l'art, Florence joue un rôle important. Sa ville, l'écrin magique qui enchante et à la fois risque d'emprisonner. Paolo suit pas à pas la reconstruction du pont Santa Trinita, et ça c'est la terrible image de la destruction après, dans le dernier moment de la guerre du pont Santa Trinita. Et elle dit qu'elle a suivi pas à pas la reconstruction du pont Santa Trinita. Elle en a fait une campagne de photos. Et elle est contente qu'il soit reconstruit comme avant, avec les mêmes matériaux, la même technique. Elle ne peut même pas imaginer qu'il en soit autrement. Dans les années 50, comme elle le rappelle, Florence était une ville blessée, très blessée, qui a vécu dans les gravats pendant bien des années. Entre l'été 1956 et le printemps 1957, elle suit, écrit-elle, l'affaire du pont Santa Trinita jour après jour, et même en le photographiant au moins une fois par semaine, non pas par souci d'exactitude, mais pour saisir l'occasion de voir et construire un monument du passé avec la technique de l'époque, pas la technique d'aujourd'hui, avec la certitude que les institutions avaient compris de cette manière jusqu'au bout la voie de la ville. Paola évoque sa formation à Florence, où elle obtient sa maîtrise en 1949 avec un mémoire sur Rosso Fiorentino. Dans le domaine de l'histoire de l'art, il y avait, dit-elle, différentes écoles, armées l'une contre l'autre. Qui publiait dans la revue de Roberto Longhi, rappelle-t-elle, ne pouvait pas publier dans la revue de Lionello Venturi et de Salmi. Elle dit... C'était impératif, donc il était très difficile de pouvoir se détacher de ces murs, de ces divisions. Elle a pu échapper à cette situation grâce à un très intense travail de recherche et au refus de se sentir enfermée dans une école. Elle dit « J'ai toujours évité la sacristie. La sacristie m'a toujours été insupportable. J'ai toujours cherché la liberté. » Et j'ai toujours cherché à donner la liberté aux autres, parce que je suis absolument libre vis-à-vis de mes élèves. Le développement d'une recherche qui s'enrichit au fur et à mesure, en élargissant ses horizons, est étroitement lié à son amour pour la liberté. Paola rappelle son contexte familial, les très riches intérêts littéraires de sa sœur, la figure d'un grand linguiste comme Giovanni Nencioni, son beau-frère, puis ses amis, ses rencontres avec des personnages importants comme Giovanni Pugliesi Caratelli, Raffaele Mattioli, Gianfranco Contini, qui accueillirent ses volumes sur Michel-Ange dans la collection des éditions Ricciardi. Sans oublier la fascination que Gombrich exerçait sur elle, lui dont elle appréciait surtout le style, l'écriture, la capacité de raconter. Tout cela était d'autant plus libératoire si l'on pense au modèle inaccessible de Roberto Longhi, à son écriture raffinée et inimitable, parce que, comme Paola l'écrit de manière tranchante, je cite, « Autant il t'ouvrait l'esprit, autant, en un certain sens, il t'enlevait le stylo de main. » Quanto apriva la testa, tanto più in un certo senso toglieva la penna di mano. Longhi, poursuit Paola, est une sorte de drogue dans le contexte universitaire florentin et il enseigne aux histoires de l'art à lire les textes. Conseil que Paola reprendra d'une façon originale et très riche, élargissant peu à peu son horizon à toute l'histoire de la culture, comme je l'ai déjà rappelé, depuis les traités jusqu'aux témoignages les plus divers. Ses recherches sur le collectionnisme sont exemplaires. L'enseignement de Haskell est important, mais pour elle, il devient essentiel de plonger la collection dans un réseau très serré de relations, où il y a l'historiographie, les marchands d'antiquité, où se dessine un jeu plus que jamais ouvert entre la collection, le musée et les goûts et les connaissances du public, qui à la fois influencent et sont conditionnés par les choix des œuvres à exposer. Le long travail de Paola sur la Galerie des Offices à Florence en est un témoignage précis, et il est émouvant de penser que jusqu'à la fin, elle fréquentait tous les jours l'archive di Stato de Florence. Elle allait toujours faire des recherches là-bas. Dans cet élargissement progressif des horizons et dans la conquête d'une grande liberté pour ses recherches, son expérience d'enseignement à Lecce et l'idée élaborée là-bas, qui est celle de la nécessité de partir du présent pour connaître le passé, ont joué un rôle important. Pour une jeune chercheuse comme l'était Paola, florentine jusqu'au bout des ongles, qui a vécu toute sa vie dans un palais du XVIe siècle, comme Carlo a dit, sur le quai Guicciardini, le long de l'Arno, Lecce était vraiment un autre monde, une situation anthropologiquement différente. C'est vraiment là, comme elle nous le raconte, qu'elle comprend qu'il faut partir du monde contemporain, de ce que les étudiants voient, de la manière dont ils le voient, pour les conduire vers la connaissance du passé. Partant des expérimentations visuelles qui sont présentes dans l'art contemporain, Paola tient compte de son expérience de spécialiste et arrive à proclamer une liberté absolue d'interprétation. Elle souligne que l'art contemporain nous apprend que les façons de voir sont multiples, et que les façons de voir peuvent être infinies. Je cite, « Au cours des années de l'après-guerre, l'expérience didactique était de type purement Croccien, c'est-à-dire influencée par Benedetto Croce. La manière d'expliquer un tableau ou de le lire était liée à un souci de qualification et d'évaluation. Toutes les expériences suivantes nous ont appris que chaque œuvre d'art peut être lu et interprété de manière infinie. Donc, en un certain sens, le professionnalisme univoque de lecture d'une œuvre d'art a disparu. La conséquence de tout cela est la responsabilité d'être consciente de son propre point de vue, de la façon dont quelqu'un se pose face aux choses. C'est une très belle approche éthique de méthode, et je crois qu'elle est valable aussi pour les études littéraires, c'est-à-dire la nécessité de se mettre en question, de ne pas se considérer comme le dépositaire d'une méthode unique et vraie. Je voudrais conclure par une question que Paola a dû aborder, mais que, comme c'était logique, étant donné sa génération et sa formation, elle a voulu en quelque sorte refouler, laisser derrière elle. La question à laquelle je faisais allusion au début, celle d'être une femme dans un milieu machiste comme l'université et l'école normale. À ce propos, il existe un très beau témoignage de sa rencontre avec Berenson. Je l'ai entendu le raconter le 8 octobre 2006 à la Villa Itatti, lorsqu'on a lui remis le Morgan Prize, un prix qui veut, je cite, to honor a scholar who carries into a new generation the qualities of imaginative scholarship, personal generosity and altruistic devotion to the institution of history. Quand j'avais, et je cite Paola, ici c'est une autre photo, voilà. Alors, elle dit, quand j'avais 22 ans, je suis allée chez Berenson, comme tout le monde, et mon travail sur Rosso Fiorentino était prêt et il est sorti quelques mois plus tard. Berenson m'a dit avec son ironie habituelle, « Ah, vous voulez étudier l'histoire de l'art? Faites attention, parce que vous aurez beaucoup de pantalons qui essaieront de vous couper la route. » Et je me souviens de lui dans son jardin alors qu'il se promenait. À Lecce, Paola était la seule femme parmi les professeurs. Il en était de même à l'école normale. Comment a-t-elle fait face à cette situation? Lui demandent les deux intervieweuses. On répond par l'engagement, dit-elle, faisant semblant qu'il n'y a pas de problème. Du reste, comme elle le rappelle, elle a été pendant 23 ans directrice adjointe, puis on lui a offert la direction de l'école normale et elle a refusé parce qu'elle voulait continuer à étudier. Signe, dit-elle, que ce problème avait été dépassé. Et elle ajoute, « Pour moi, l'école normale a été une expérience très importante. Autrement dit, c'est une place où l'on peut faire tout si on veut le faire. » Je me demande si cela est encore valable. Je pense que la grande, l'extraordinaire période de liberté et d'ouverture que l'école normale a vécue a été très liée à sa personne. Pour moi, comme pour les générations de ceux qui étaient les étudiants de l'époque, Paola reste une présence vivante dans le souvenir, l'affection, la gratitude. Je ne peux exprimer tout ce que je lui dois et j'espère seulement ne pas avoir trahi la confiance qu'elle m'a donnée. Merci.